Alors là, on va remonter loin dans le temps. On est au 7e siècle. Oui, je vous avais dit qu'on allait remonter loin dans le temps. La ville de Nivelles qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas du tout à cette époque. C'était un tout petit village du Moyen-Âge. Et sur la place principale, Pépin l'Ancien a son grand domaine familial. À son décès, son épouse décide de transformer ces lieux en monastère et confiera à sa fille Gertrude le soin de faire fonctionner les lieux. Il était une fois Sainte Gertrude. Certes, on ne connaît pas vraiment la date de sa naissance, mais Gertrude naît plus ou moins en 626 dans une famille plutôt aisée. Elle a même des liens avec la famille de Clovis. Bref, comme dans toute famille issue de l'aristocratie, chance, les femmes sont instruites, éduquées, savent lire et écrire. C'est ainsi qu'elle n'a que 20 ans quand sa mère lui confie la gestion du monastère. Elle devient donc la première abbesse et la sainte patronne de la ville de Nivelles. Mais cette vocation à servir le Christ, Gertrude l'a depuis qu'elle est toute petite.
Alors, les engagements de Sainte Gertrude, j'en citerai trois qui sont pour moi assez clairs. C'est son engagement corps et âme envers le Christ, à travers la prière, la dévotion, sa vie de privation, d'ascèse. Ce serait pour moi le premier. Deuxièmement, ce serait soigner autant les corps que les esprits des plus pauvres. Quand je dis soigner, c'est vraiment les nourrir, les accueillir, les aider, les accompagner, qui est aussi une des missions de l'Église, mais que Gertrude a vraiment appliquée dans cette agglomération de Nivelles. Et le troisième, c'est cet objectif qu'elle s'était fixé aussi, elle, de transmettre et d'éduquer. En tant qu'elle, femme, je l'ai dit, issue d'une famille assez aisée, elle était instruite et s'est très vite rendue compte que c'était une arme et qu'on pouvait l'utiliser justement pour tout. Et elle va consacrer sa vie elle-même à l'étude des textes, des écritures, enfin des saintes écritures, et elle va vouloir transmettre ce savoir. Cette transmission de savoir, ça va être aussi la raison d'être du monastère, qui n'est pas, le but d'un monastère, c'est pas que prier. Il y a aussi cette vocation de transmettre, et elle va beaucoup, beaucoup travailler pour la transmission de ce savoir aux plus démunis. Avec ce message de pas apprendre pour apprendre, c'est vraiment éduquer, transmettre, tout en expliquant les mystères des Saintes Écritures. On a tous lu des textes en comprenant qu'il y a des symboles, mais c'est pas toujours évident de les décoder. Et elle en faisait vraiment un point d'honneur que ces saintes écritures pouvaient être comprises, mais dans un langage un petit peu moins imagé, un petit peu moins mystérieux, pour que le peuple puisse finalement comprendre la beauté de ces écritures. La vie de travail incessant et de prière aussi incessante, qui sont en fait les piliers de la règle de Saint-Benoît, la prière, le travail, qu'elle va en partie appliquer dans son propre monastère et qu'elle va suivre d'une manière ultra rigoureuse. Et s'imposer, je vous le disais, des heures et des heures d'études, des textes. Les moines qui la côtoyaient racontaient qu'elle connaissait les écritures par cœur, et que c'était vraiment impressionnant et très agréable de l'écouter parler de ces textes. Alors c'est vrai qu'au Moyen-Âge, on est jeune beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui, mais en même temps, cette jeune fille n'a que 20 ans. Elle doit développer ce monastère, elle doit collaborer avec les moines irlandais qui étaient des êtres très austères que sa maman avait fait venir sur Nivelles pour justement l'aider à développer. Et elle va réussir aussi à tisser une amitié très forte avec ces moines, dont le célèbre Feuillin, qui est devenu Saint Feuillin, qui était, on pourrait dire aujourd'hui, son meilleur ami. Et donc, elle a réussi ce challenge de développer en même temps une communauté de femmes, mais aussi de vivre en parallèle avec cette communauté d'hommes.
Ben, je peux peut-être expliquer certains de ces miracles. Donc, il y a le miracle des moines qu'elle envoie à Rome pour acheter des livres saints, des livres de prière. Elle dit qu'ils peuvent y aller en toute sérénité parce qu'ils sont sous sa protection. Pendant le voyage, il y a une tempête. Ils ont invoqué le nom de Gertrude et la tempête s'est calmée. On prétend même qu'elle est apparue pour... Mais bon, ça, c'est au Moyen-Âge, toutes ces... Le deuxième, c'est le chevalier qui a demandé la main de Gertrude. Donc, il a vendu son âme au diable pour pouvoir conquérir le cœur de Gertrude. Ça n'a naturellement pas marché. Et quand le diable est venu prendre possession de l'âme du chevalier, il aurait aussi invoqué le nom de Gertrude qui est apparu et qui a fait fuir le diable. Bon, tout ça, c'est des trucs très légendaires. Parce qu'il y a aussi, après sa mort, il y a le Odélard qui était un noble, qui était lépreux, abandonné par toute sa famille, et sauf par une de ses filles. Et un jour, il a demandé à boire à sa fille lui a donné à boire, et puis elle a essuyé le calice dans lequel il avait bu pour qu'elle puisse boire à son tour et ne pas attraper la lèpre. Ce manque de confiance a rendu Odélard furieux, et donc on dit qu'il est venu avec une motte de terre et une plante qui était le symbole de ses biens, et qu'il est venu les donner à l'abbaye, et qu'une main serait sortie du tombeau de Gertrude pour accepter le don.
Évidemment, Sainte Gertrude est inspirante. De par son parcours, de par sa piété, sa persévérance, les responsabilités qu'elle a dû endosser très, très jeune, Gertrude était quelqu'un de très proche des démunis. Elle allait elle-même visiter les plus pauvres de cette agglomération qui correspond à Nivelles aujourd'hui. Elle n'est pas restée cloîtrée que dans le monastère, si je puis dire. Et donc, le fait d'être attentive aussi à l'instruction du peuple, d'aller vers les gens, ben, le peuple ne s'y trompe pas non plus et lui rendait justement bien ce qu'elle pouvait leur offrir. Elle est inspirante parce que à l'époque, elle a dit « Non, je ne me marierai pas !» C'est que le papa de Sainte Gertrude, c'est le maire du palais et le tuteur du roi Dagobert. Pour vous situer aussi, en général, tout le monde connaît ce bon vieux roi Dagobert. Et lors d'une fête au palais, le roi avait invité toute sa cour. Et dans sa cour, il y avait un jeune homme qui voulait se marier avec la plus jeune fille du papa de Gertrude, qui était donc Gertrude. Et quand on lui a présenté l'enfant, parce qu'il n'était encore qu'une enfant à ce moment-là, hein, vous savez, les mariages étaient arrangés. Gertrude est devenue dans une colère rouge en disant « Il est hors de question que je me marie avec quelqu'un d'autre que le Christ. » Et là, on raconte que l'assemblée a été subjuguée par la détermination de cette jeune fille et qu'à ce moment-là, sa maman a tout fait pour pouvoir réaliser le rêve de sa fille qui était de rentrer dans les ordres. Parce qu'on aurait pu imaginer qu'on force le mariage, etc. Mais il paraît qu'il rayonnait une telle sérénité autour de Gertrude qu'on n'a pas forcé le mariage. C'est quand même un geste fort à l'époque, fort et courageux. Elle est inspirante parce qu'elle n'a jamais arrêté de travailler au développement de son monastère et donc d'entretenir sa vocation par son travail. Au tout début du Moyen-Âge et surtout dans cette culture germanique, j'insiste parce qu'il y a aussi une culture plus méditerranéenne quand on descend dans le sud et c'est pas du tout les mêmes manières d'envisager le statut de la femme. Mais là, on a dit Sainte Gertrude, c'est les Mérovingiens, les Carolingiens. Et dans cette culture-là, la femme a quand même un rôle à jouer, à un statut élevé. En tout cas, si elle fait partie de l'aristocratie, elle a donc une instruction, elle peut diriger un royaume, elle peut hériter, elle a donc un rôle politique indéniable, bien que l'Église ait toujours une vision, pas toujours positive de la femme. C'est utile de rappeler que c'est Ève qui a croqué la pomme. L'Église, et en tout cas, c'est parfois dû aussi au caractère de certains papes, a fait confiance à certaines femmes en octroyant la création de monastères, de couvents et en donnant des charges ecclésiastiques importantes à certaines femmes. Donc, voilà, je pense que bien que ça ne soit pas toujours très confortable, la femme n'était pas mal lotie à cette époque-là, dans ce lieu-là, dans cet espace géographique-là. On peut aussi peut-être rappeler qu'un petit peu plus tard dans le Moyen-Âge, apparaît l'amour courtois, et que donc dans les cours des plus grands palais, là où il y a les aristocrates qui se réunissent, les grands chevaliers, il y a des troubadours, des poètes qui vont chanter les amours impossibles entre un homme, une dame, et qui vont véhiculer une image de la femme qui est quelqu'un de doux, quelqu'un qu'il faut séduire, quelqu'un à qui il faut parler de manière plus sensible et pas de manière rustre et violente comme certains chevaliers pouvaient se l'imaginer, et que donc eux aussi vont quelque part influencer l'image de la femme et des relations homme-femme au Moyen-Âge. Les traces aujourd'hui de l'histoire de Gertrude à Nivelles, je crois déjà que c'est la collégiale magnifique de style roman qui trône majestueusement sur la Grand Place à Nivelles, qui en est un bel héritage, même si la construction qu'on voit aujourd'hui n'existait pas telle quelle au temps de Gertrude, tout ça est venu progressivement.
Il y avait trois églises, l'église des dames, l'église des hommes, et alors la collégiale qui était l'église festive. Et donc la collégiale, c'était le centre. Et d'ailleurs, il y a les cloîtres. Et tout autour des cloîtres, il y avait les églises et les bâtiments de l'abbaye. Oui, à la fin de l'abbaye, il fallait prouver 16 quartiers de noblesse pour pouvoir rentrer dans l'abbaye. Donc la collégiale a 975 ans maintenant. Et donc, on a découvert le tombeau de Gertrude, où ses restes ont été transférés, puisqu'il y avait la chasse du 18e, oui, qui a fondu lors du bombardement de 1940. Donc on a une nouvelle chasse moderne. Donc ça, c'est les principaux vestiges qu'il y a d'elle, c'est sur la collégiale.
Et de ses frères et sœurs humains. Six siècles plus tard, vers 1276, une grande procession fut instituée pour lui rendre hommage. C'est le Tour Saint-Gertrude. Depuis lors, il s'est déroulé chaque année.
Une des traces que les Nivellois aiment entretenir, c'est le Tour Sainte-Gertrude qui a toujours lieu fin septembre, le 29, ou en tout cas le dimanche qui suit le 29. Le 29, c'est la Saint-Michel qui est lui le saint patron de Nivelles. C'est comme ça que ça se fait à ce moment-là. Et en fait, les Nivellois ou les pèlerins, ça draine vraiment beaucoup de monde, font un tour assez long, il y a quand même des kilomètres à faire, dans la ville de Nivelles, et ça correspond au déplacement que Gertrude faisait pour aller vers les plus démunis. Et donc ça, je pense que ça fait vivre encore ce folklore-là, l'esprit de Gertrude à Nivelles aujourd'hui.
Je suis nivelloise d'abord, et donc quand j'ai vu qu'on avait la possibilité, en tant que nivellois ou non nivellois, de participer au défilé, je me suis dit que c'était une occasion de faire vivre ce folklore. Je participais tous les ans au tour en tant que marcheur le matin, et puis mes enfants défilaient avec les mouvements de jeunesse, et je me suis dit pourquoi pas moi, puisque je suis trop âgée pour les mouvements de jeunesse, défiler, et c'était donc en chanoinesse. Et donc super expérience, super chouette. La première année, je suis allée toute seule. Et puis après, j'ai entraîné l'une ou l'autre de mes amies. Et cette année, deux collègues.
Et je pense que ça, avec le tour, ça s'est popularisé en quelque sorte. Et donc nous partons à 7h du matin. Donc sa chasse, son reliquet, est mis sur un char du 16e siècle qui est tiré par 6 chevaux de trait brabançons. Je ne sais pas s'ils sont tous brabançons à l'heure actuelle.
Chers amis du Tour Saint-Gertrude, bonjour à tous. Je ne suis pas le premier à rêver. Cette parole est par exemple attachée au pasteur Martin Luther King.
Et donc on fait un périple maintenant de 17 km autour de Nivelles. Alors le Tour du matin, qui est le pèlerinage, qui à mon sens est quand même l'âme du Tour. Il y a quand même 3000 personnes. Normalement, elles sont censées suivre le char. Mais bon, chacun le fait maintenant à sa manière. Donc, il y en a qui prennent de l'avance sur le char et d'autres qui prennent parfois du retard.
Et donc, c'est mi-religieux, enfin, c'est un peu pèlerinage et un peu... ça fait partie du folklore nivellois aussi. C'est vraiment important, je pense, pour les nivellois de faire cette marche. Et les non-nivellois aussi. Et voilà, j'ai commencé à le faire quand j'étais élève ici au Collège Sainte-Gertrude, quand j'étais jeune. Et puis ben voilà, donc je participe à ça le matin. Et puis en général, on se retrouve avec des amis le midi pour manger. Et puis ben pour entre 14h et 15h, en général, on doit être présent pour aller s'habiller. C'est magnifique comme les costumes sont prêts, bien repassés, parce que les chanoines, ce sont vraiment des costumes très spéciaux avec des manches spéciales et tout est repassé, c'est tous des petits plis et c'est vraiment un travail en amont. Quand on regarde les gens défiler, on ne se rend pas toujours compte de ce que ça demande derrière. Mais il y a une préparation, tous les costumes sont prêts.
Et puis, moi, je m'appelle Mireille Ambi et je suis arrivée, je ne veux pas dire par hasard ou tout, mais je connaissais l'ancienne personne qui s'occupait des costumes, qui avait un certain âge et qui m'avait demandé d'aller l'aider. Et puis, un petit peu à la fois, ben, elle s'est retirée et j'ai repris l'atelier. Enfin, l'atelier qui n'existait pas, parce qu'au départ, on avait juste une pièce où on stockait les vêtements. Il fait glacial dans cet endroit, c'est à l'église. Et donc, on ne savait faire du travail qu'à partir du mois de mai, c'est-à-dire repasser, aller vérifier les costumes et tout ça. Donc, j'ai demandé à l'ancien président si on ne pouvait pas trouver un endroit pour moi, ouvrir un atelier et pour confectionner nous-mêmes les costumes. Parce qu'il faut savoir qu'avant, on faisait confectionner les costumes dans des ateliers. Et tout ça coûtait très, très cher. Comme j'avais vu que les costumes devenaient un peu vieux, il fallait en refaire. Voilà, d'où l'idée d'avoir un atelier. On s'est fait appeler les petites mains de Sainte-Gertrude. Et là, ben voilà, nous avons mis en route toutes les réparations et toutes les nouveaux costumes parce que ça devenait nécessaire dans certains. Ça me plaît de faire ça et... Je m'investis beaucoup. Nous avons un Nivellois de souche qui s'occupe toujours du frein du char de Sainte-Gertrude. Et il faut savoir que le char termine la procession du Tour. Et il trouvait tellement dommage d'arriver tout seul avec le char qu'il nous a suggéré l'idée de trouver quelque chose pour mettre alentour de ce char. Donc ça a cogité. Et comme je suis un peu ambitieuse, j'ai été voir un peu... à Rome pour aller voir les albardiers. Et je me suis dit, tiens, ça c'est pas une mauvaise idée. Alors je suis allée voir quelques historiens pour voir un petit peu. Et voilà, l'idée a germé. Ça a mis 2 ans parce qu'il a fallu créer les tissus parce que ce que je voulais n'existait pas. Il a fallu dessiner, il a fallu patronner. Donc, trouver un groupe parce qu'ils sont 12. Maintenant, ils sont 12, plus le chef, plus 2 tambours. Tout ça avec les budgets un petit peu réduits que nous avons. C'est pour ça que ça s'est échelonné sur 2 ans. Nous allons travailler toute l'année, sauf pour le moment, parce qu'il n'y a pas de chauffage. Donc là, c'est impossible de tenir une aiguille. Que maintenant, on va les trier. Il faudra aller prendre le linge à laver, parce qu'on fait ça aussi. Repasser, parce que les manches, par exemple, des chanoinesses, sont toutes plissées. Elles sont 26. Donc vous voyez le nombre de manches que nous devons repasser, plisser, ranger, pour que tout ça soit à l'abri. Et voilà, on fait ça toute l'année. Et alors, la veille du Tour, ben, c'est prendre le bas de combat, on descend tous les costumes dans l'église, parce que c'est là que s'habillent les figurants, et ça démarre, quoi. Journée très stressante, très fatigante, parce qu'on doit toujours compter à ce qu'il n'y ait pas de pluie.
Ben, écoutez, le comité, il y a 2 femmes. Donc, quand on parle des costumes, ça passe au-dessus de leur tête, quoi. Parce qu'ils sont à part... Mon mari qui m'a beaucoup aidée, mon fils aussi qui fait partie du comité, Patrick qui commence à se rendre compte du travail que l'on fait, mais il n'imagine pas le travail, il n'imagine pas, parce que c'est tout le temps. Je crois qu'une fois je vais les inviter à un atelier pour qu'ils se rendent compte du travail qu'on a, parce qu'ils ne sont vraiment pas au courant.
Et donc là, à 15h30, nous avons une procession. Donc une première partie historique, donc en costume du 15e siècle, qui est censée représenter comment était accueillie la Sainte à son retour en ville après le tour. Donc nous avons plein de costumes avec les échevins, le bourgmestre échevin, des seigneurs, des chanoines et chanoinesses naturellement. Et ensuite nous avons ce qu'on appelle la partie religieuse. Donc c'est là que toutes les statues et les reliquaires des autres saints défilent et sont portées par les mouvements de jeunesse de la ville.
Et on finit par un tédéum dans la collégiale. Et donc en tant que chanoinesse, donc les mouvements de jeunesse ne doivent pas participer, mais en tant que chanoinesse, on doit participer à ce tédéum.
Alors, notre collège, il aime rappeler les valeurs qu'il souhaite transmettre à ses élèves. Ça, on le met dans le journal de classe, à chaque rentrée scolaire. Ces valeurs, c'est la vie de Sainte Gertrude qui nous les a inspirées. C'est le respect des individualités de chacun. Peu importe l'élève qui arrive, il doit être respecté dans son individualité. C'est l'accueil. Que tout le monde est le bienvenu et que chacun doit être accueilli comme il est. C'est aussi le sens de l'effort qui amène à cette formation humaniste auquel on tient. C'est aussi la bienveillance et de mettre l'humain au centre de nos apprentissages. Tout notre projet éducatif et pédagogique tourne autour finalement des valeurs que nous inspire la vie de Sainte Gertrude, c'est éduquer les hommes, les femmes à leur métier d'homme et de femme de demain. Il faut mémoriser, vive l'encyclopédie et tous ces savoirs purs, mais ce qui est important, plus que tout, c'est de développer cette conscience que demain, ces élèves, ce seront les citoyens de demain. Et ça inspire effectivement notre collège, c'est notre ADN, c'est ce qui percole dans notre enseignement, même si, je ne sais pas si nos élèves connaissent la vie de Sainte Gertrude.
Bonjour. Alors, juste déjà ton prénom.
Je m'appelle Marie.
Alors, pour toi, c'est qui Sainte Gertrude ?
C'est une sainte. Enfin, c'est une femme qui a fait des choses correctes durant sa vie, voire plus que correctes. C'est pour ça qu'elle est devenue sainte, j'imagine. Et c'est une. Du coup, c'est le grand personnage du collège pour moi.
Je m'appelle Martin. C'est une dame qui a été des paysans, je crois. Pendant sa vie.
Bonjour, je m'appelle Edgar. Sainte Gertrude, c'est une femme du Moyen-Âge qui est fille d'un seigneur de la région, je pense, et qui a aidé des paysans dans leur misère. Et elle est morte d'une maladie qu'elle a aidée en les aidant, je pense.
Je m'appelle Lénaïque. Non, pas vraiment. Pour moi, c'est une sainte de Nivelles et elle représente quelque chose, en tout cas dans notre école, quoi. Mais je sais pas quoi.
Il y a une statue près du parking, je pense, devant. Et à part ça, non, on ne nous en parle pas trop.
C'est vraiment depuis que je suis revenue en tant que d'abord directrice adjointe de cette école, puis en tant que directrice, que j'ai cet attachement. Oui, je tiens vraiment à ce que, par exemple, sur le journal de classe, en général, ce sont des élèves qui font la couverture du journal de classe, ou le pull réto, elle figure, parce que c'est vraiment notre figure de proue de l'école, même si c'est le cardinal Mercier qui est à l'origine de la création de l'école, et que Sainte Gertrude n'a rien à voir dans la création de cette école, mais le fait qu'elle trône là sur notre parking, c'est vraiment inspirant et important. Et sans doute aussi, ça apporte ce petit supplément d'âme à l'école. Et puis, je suis admirative aussi de ce qu'elle a pu faire. Et donc, je trouve que c'est important qu'on connaisse son histoire et qu'on fasse vivre, qu'on continue à la faire vivre à Nivelles, quoi.
Pour moi, c'est la patronne de la ville. On l'honore. C'est une femme en plus. Donc, on est fiers qu'il y ait une femme qui ait créé une ville. Bon, moi, c'est ce qui m'inspire.
Je dirais que c'est un petit bout de femme parce que toutes les archives attestent qu'elle était vraiment toute petite. Mais que dans ce petit bout de femme, il y a beaucoup d'exceptions, notamment en raison de son instruction qui était vraiment très poussée pour l'époque. Et aussi en raison de son christianisme militant, mais dans vraiment le sens positif du terme de faire rayonner le message très beau qu'on trouve dans les Écritures.
Trouver des personnes expertes qui pouvaient nous raconter l'histoire de Sainte Gertrude ne fut pas chose aisée. Alors pour cet épisode en particulier, on remercie toute une flopée de personnes, à commencer par Caroline Goyard, professeure d'histoire au Collège Sainte-Gertrude de Nivelles, d'être venue jusque chez nous pour répondre à nos questions. Merci aussi à ses élèves de nous avoir accueillis en classe et merci à Caroline Lallière, directrice du Collège, de nous avoir raconté l'expérience du Tour Sainte-Gertrude. Merci à Patrick Janson, présidente du comité du Tour Sainte-Gertrude, et Mireille Ambier, gestionnaire des costumes du Tour Sainte-Gertrude. Je vous l'avais dit que ça faisait du monde, hein ? Bon allez, on en profite aussi pour remercier Sylvana Panchiera, experte sur les béguines d'hier et d'aujourd'hui, qui nous a donné envie de découvrir un peu plus Sainte-Marie d'Ogny. Peut-être une autre série, qui sait ? Il était une fois nos femmes wallonnes est une série de podcasts qui part à la découverte de femmes qui ont marqué et marquent l'histoire de la Wallonie. Qu'elles soient directrices d'école, artistes ou militantes, ces badass d'hier et d'aujourd'hui rayonnent sur notre matrimoine wallon. Cette série sonore est une création originale du studio Ultra Vague, soutenu par Star Invest. À l'interview, Héloïse Rouard. À l'écriture et au montage, Cassie Hénard. Au mixage, Marius Adam, à la prise de son, Noémie Lalou et Anne-Sophie Skitekat, à l'interprétation, Gaëlle Swann, les visuels sont de Gilles Daffelé, et la voix off, c'est moi, Jessica Rigard.